Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le magazine du soir, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. Vous connaissez la maison, 22h, 23h, à podcaster évidemment, avec ce soir au cœur du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, deux invités qui sont Mathilde Carton et Martin Luminet. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Elles ont pris le pouvoir, fait une révolution culturelle et politique, les Riot Girls, ou l'histoire d'une bande de filles qui ont posé les bases punk et rock du féminisme pop actuel. À vérifier, Mathilde Carton a mené l'enquête. Lui, il a pris le pouvoir sur sa propre vie. Il a lâché prise, s'est mis à nu sans filtre pour libérer un monstre. C'est son premier EP. 5 titres signés Martin Luminet. Marion.
C'est un des chiens fous de la chanson française, mais c'est aussi un chanteur populaire dans la force de l'âge. Arthur H revient avec une chanson, L'Avalanche. On en parle avec lui vers 22h30.
Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec Clara Luciani. Son deuxième album Cœur sort vendredi prochain. Jeudi, elle passe la nuit sur France Inter. Et oui, c'est comme ça. Avec Laura Adler dans L'Heure Bleue, avec Mishka Assayas dans Very Good Trip. Elle sera notre rédac-chef dans Côté Club. Et enfin, elle finira la soirée toute seule. On lui laisse les clés dans la radio de 23h à minuit pour vous présenter sa playlist. Et le reste, tout de suite sur France Inter.
Je ne suis qu'une imbécile. Allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Ça me rend fou quand elle fait un. Hein. Mais c'est vrai.
Mais vous n'avez pas besoin de ça.
Pour être fou, je le sais. Voilà. Martin Luminet et Mathilde Carton sont avec Carton sont avec nous ce soir. Martin Luminet, auteur, compositeur, interprète, avec un premier EP ou presque, parce que c'est pas votre premier EP en fait. Il y en avait un autre.
Ah bon?
Ah oui. Il s'appelait Bande Annonce.
J'en avais fait un cachet, oui.
Voilà,
on
c'est ça.
On peut vous cacher ici.
Exactement.
C'est l'horreur, la radio nationale.
Mais qu'est-ce que vous en avez fait? C'était des flics.
Ouais, voilà. C'est ça.
Mais qu'est-ce que vous en avez fait?
Eh ben, c'était vraiment voulu. Je voulais faire quelque chose d'éphémère. J'allais monter sur scène pour la première fois et j'avais enregistré dans un petit studio à Lyon mes premières chansons en me disant, les premières personnes qui vont venir me voir en concert pourront avoir ces chansons-là enregistrées chez elles, pensant que ça allait être vraiment un cadeau que je leur faisais. Et je pense que si je réécoute ce disque aujourd'hui, je pense que c'est vraiment, j'ai propagé une maladie auditive chez eux.
À vos côtés, donc, Mathilde Carton qui signe un essai sur la révolution rock féministe des Riot Girls, née dans les années 90, période punk, un mouvement musical et social. Vous en avez entendu parler, j'imagine, Martin Luminé?
J'en ai entendu parler en arrivant, oui. Dans la loge, on s'est entendu parler mutuellement. Non, mais je voulais pas me documenter, je voulais vraiment qu'on se rencontre. Je trouvais ça plus marrant de rencontrer quelqu'un plutôt que de se documenter sur quelqu'un.
Exactement. Vous l'avez googlisé en tant que en bonne journaliste que vous êtes?
Non, mais on s'est rencontrés tout pareil.
Oui,
très bien.
C'est la spontanéité du moment. C'est
comme pour nous, par exemple.
Pareil,
on ne sait absolument pas qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment la magie de la rencontre, la radio. Je dis girls, mais en fait, ça ne s'écrit pas comme ça. Quand je regarde la couverture, c'est Riot Grr, c'est-à-dire vous avez enlevé le i.
C'est-à-dire qu'il y a les trois R comme un follement. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient des profondeurs. C'est le grrr de la colère, le grrr de la rage. Hein.
De la scène.
Exactement.
Mathilde Carton, avant de parler de ces filles qui en avaient marre, qu'on les renvoie à leur condition de femme incapable de toucher une guitare, quelques mots sur votre rapport, vous, à la musique, puisqu'on va faire connaissance ensemble. Vous avez un parcours de journaliste, Grazia, Arte, France 2, bientôt M, j'ai pas le droit de le dire, si M Le Monde, peut-être, enfin, et puis d'autres journaux, je ne sais pas. Je me suis renseigné, c'est pour ça. Avec quelle musique vous avez grandi et contre quelle musique vous vous êtes construite?
Moi, j'ai eu la chance de grandir avec un père mélomane et du coup avec énormément de New Wave à la maison. Et je dois dire que la chanson française, je l'ai découvert beaucoup plus tard quand j'étais étudiante et qu'il a fallu chanter en karaoké dans les bars avec les copains.
Julie Pietri et compagnie, c'est ça? Eve, lève-toi,
par
généralement,
exemple,
c'est ce qu'on chante dans les
karaokés,
oui.
Bien sûr, voilà, plutôt de cet ordre-là.
Et la New Wave, laquelle?
Les Cure, évidemment.
Ah, pas française?
Non, pas tout à fait, non. Et d'ailleurs, Robert Smith, c'était ma première interview, j'avais 15 ans, et quand on rencontre Robert Smith, ça fait quand même quelque chose.
C'était à quelle occasion?
Je travaillais pour Rock One, qui est un magazine qui était tenu par Pierre Veillet, et j'étais en stage, c'était merveilleux, j'étais en seconde, c'était l'été de ma seconde, et il y avait une conférence de presse, et quand vous arrivez face à Robert Smith, vous gloussez, hein, comme je suis en train de le faire maintenant en évoquant ce souvenir, mais parce que c'est énorme, et il est d'une gentillesse phénoménale. Donc avec mon anglais balbutiant, j'ai quand même réussi à lui tirer quelques mots, et à lui faire signer tout un tas de disques. Je peux vous dire que je suis repartie les mains chargées.
Qu'est-ce que vous lui posiez comme question à 15 ans?
Les mêmes questions que je lui aurais posées adulte, mais il faudrait que je replonge dans mes archives.
Des questions vraiment musicales sur son parcours,
effectivement sur la musique, parce que là, à ce moment-là, il revenait avec un album et
c'était à ce moment-là, d'accord.
Oui, okay. Oui. Et enfin, c'était chouette.
Et vous?
Oui.
Avec quelle musique vous avez grandi et contre laquelle vous vous êtes construite?
Eh ben, moi, j'ai grandi avec pas beaucoup de musique. Hein. Je vous avoue qu'il y avait pas beaucoup d'éducation musicale à la maison, donc on avait 3 CD dans la voiture.
Waouh!
Mais pas des moindres. Il y avait Laurent Voulzy, Alain Souchon et Céline Dion.
Ouais.
Bonne époque, Céline.
Ouais. L'époque laquelle?
L'époque 2.
2, c'est ça, voilà. L'album de Jean-Jacques Goldman.
Exactement, celle qu'on s'est tous pris de plein fouet. et puis, c'est marrant parce que j'ai pas du tout eu de construction musicale. J'ai appris en apprenant à lire que le cœur grenadine, c'était le cœur grenadine et pas le cœur gros nadine. J'étais persuadé que j'ai le cœur gros nadine.
J'adore ça.
Quand j'étais petit. Et bref. Et du coup, c'est vrai que, je me suis un peu fait ma culture musicale en apprenant la musique, un peu sur le tard aussi, quoi.
Le cœur gros nadine, ça me rappelle que vous écriviez en bonnet du forme, bec BO de Zanotté.
Oh, tout à fait en bonnet phrygien, moi, je disais à la fin, voilà.
Martin Luminé, on va vous écouter. Magnifique. C'est le titre qui ouvre le EP. Magnifique. Pourtant, c'est une antiphrase au vu de ce que vous y racontez, car vous commencez, c'est tout le contraire d'un ego trip.
Bah ouais, c'est vrai que moi je me disais que c'était plutôt plus sincère, plus incarné de faire état des lieux de ses défauts, comme si on se rendait à un rendez-vous Tinder et qu'on faisait un peu la liste de tout ce qu'on ratait, de tout ce qu'on échouait. Je trouvais ça plus juste, peut-être un peu plus...
C'est comme ça que ça fonctionne sur Tinder?
J'en ai aucune idée.
Généralement, j'ai l'impression qu'on cherche plutôt à se vendre.
Mais je crois que
c'est une même technique de vente.
Même
en même
dans
temps,
la musique, ouais. On essaie un peu à se vendre, quoi. Mais je crois que moi, j'ai vraiment dissocié ça parce que j'avais pas l'impression de devoir vendre quelque chose. J'avais plus l'impression qu'il se jouait quelque chose d'assez viscéral. Et que même si c'était pas beau à voir, il fallait le vivre pleinement, quoi.
Donc on va écouter le monstre qui est en vous dans Magnifique.
Dans la chanson que je ferai pas, j'arrêterai enfin de mentir. Dans la chanson que je ferai pas, j'avouerai ce que j'ai pas pu dire. Je serai enfin fier de moi. Je prendrai mon courage à 10 doigts. Dans cette chanson que je ferai pas. Dans la chanson que je ferai pas, tout le monde aura le droit. Vive la vie, vive la joie, un best-of de tous mes mauvais choix, mauvaise vie. À la lettre, je mets l'amour par les fenêtres. Mauvais pote, mauvais mec, mauvais fils, mauvais frère. Si t'as besoin d'un problème, t'hésites pas, tu m'appelles. Éternel, bon à rien, à part moi, tout va bien. C'est moi le roi du plagiat. Ouais, je copie sans cesse le garçon que je suis pas. Hey. Santé qu'on se détruit. Désolé, désolé si je chante pas droit. Les choses de la vie qui me tordent la voix. Tu sais, j'ai sauté dans le vide pour pouvoir aller plus haut. Tous ces coups de tonnerre dans le beat, juste en faire quelque chose de beau. Faire la fierté de mes amis, faire la fierté de mes parents. Cette fille qui a sauvé ma vie en me détruisant. Dans la chanson que je ferais pas, je pourrais plus me cacher derrière le mauvais garçon modèle que t'as l'air d'aimer. Je pourrais plus me faire passer pour le type qui égorge le bonheur, le mal aimé, le connard au grand cœur. J'arrêterai de dire du mal du couple et de tout lui reprocher. J'arrêterai de dire du mal de tout ce que j'ai peur d'essayer. Je te parle de fidélité, je te parle de devenir réglo. Je fais semblant de mépriser l'amour, mais je rêve qu'il me fasse la peau. Sur le corps, que c'est comme ça que j'ai tout appris. La solitude comme animal de compagnie. Génération assassinée par des diplômes d'abrutis. Je me demande plus si je vais y arriver, mais plutôt à quel prix. Et tu crois que la musique a sauvé ma vie. Mais la musique c'est pas le remède, non. La musique c'est ma maladie. C'est la chanson que je ferai pas. La chanson que je ferai pas. Il faudrait que j'écrive cette chanson, mais j'en suis clairement incapable. Il faudrait que j'écrive cette chanson, mais j'en suis clairement incapable. C'est tout pour moi. Merci, bonsoir. Appelle-moi Martin Luminable. Ouais. Pourquoi tu crois en moi? Pourquoi tu crois en ce type? Qu'est-ce que tu vois en moi? Si ce n'est mon double magnifique. Mon double magnifique.
Magnifique, c'est le titre qui ouvre Monstre, premier EP signé Martin Luminé et non pas Martin Luminable, comme vous le dites dans ce EP. C'est un souvenir d'enfance, c'est comme ça qu'on vous a appelé à un moment donné, ou c'est vous-même qui vous autoflagellez?
Non, c'est moi-même.
Ah bon, d'accord, parce que ça peut exister, vous savez, les enfants sont tellement méchants. La musique est arrivée à quel moment? Parce que là, donc, on dit premier EP, mais les premiers textes, véritablement les premiers textes, ils arrivent quand dans votre parcours, Martin Luminé?
Ça arrive un peu tard. En fait, toute cette histoire de musique, c'était tout un parcours de déconstruction et un peu d'accident aussi. C'était vraiment pas prévu, je devais pas faire ça du tout de ma vie.
Sciences Po?
C'était Sciences Po, ouais. C'était Sciences Po, sauf que bah, moi j'avais grandi dans une ville où il n'y avait pas de cinéma, et à côté de ma fac, il y avait un petit cinéma. Donc du coup, j'ai passé... plutôt une licence de spectateur de cinéma, quoi, à temps plein.
Vous l'avez réussi?
Ma licence de spectateur de cinéma haut la main, Sciences Po bas la main.
Je disais que la musique était arrivée au départ par ennui après le lycée. La musique arrive par ennui.
Bah ouais.
Et c'est pas mal en
je
fait.
Je pense que l'ennui, mine de rien, il y a une certaine vertu à l'ennui. Des fois, des choses se logent en des choses très graves, hein, parce que des fois, ça peut être la violence, ça peut être la haine. Et on le voit que la plupart des personnes qui pètent des plombs sont souvent des gens qui s'ennuient. Et du coup, on utilise un peu ça. Mais parfois, quand il y a un terreau quelque part qui qui sommeille. Moi, ça a réveillé une espèce de d'hypersensibilité qui était là depuis le début, mais qu'on m'avait caché par éducation et que je m'étais du coup caché aussi. Et cet ennui, cette projection de vie où j'allais vivre un peu sans exister, et puis que j'avais cru justement à ce qu'on nous mettait un petit peu sous les yeux, à savoir qu'on allait être une génération plutôt tranquille, que les conneries, elles avaient toutes été faites avant par nos parents, nos grands-parents, et que nous, on avait juste à se soucier de passer des diplômes, acheter un monospace, et puis voilà, quoi. Et du coup, que la vie allait rouler, et qu'on n'avait pas à avoir à se poser la question d'être heureux. Sauf que, eh ben, quand on commence à se poser la question comment on peut être heureux, tout ça doit être un peu déconstruit.
Alors, c'est étrange, parce que vous dites dans un entretien, j'avais 20-21 ans, j'ai vécu longtemps sous un couvercle, donc on a bien compris que le couvercle était familial. Mais vous dites que vous avez passé une licence de spectateur de cinéma, on a bien compris, mais la musique là-dedans?
Eh ben, la musique, moi j'ai vraiment écrit grâce au cinéma. Paradoxalement, je me suis pas mis à l'écriture grâce à la littérature, parce que je lisais peu, je suis très très lent à la lecture, et je me disperse beaucoup. Mais du coup, c'était plus, vous voyez, comment toute une vie peut être résumée en une heure et demie, ça me fascinait. Et puis après, voir avec les chansons de Souchon et tout ça, comment toute une vie peut être résumée en 3 minutes. Et ça, pour le coup, cette temporalité a été vraiment une grosse excitation pour rattraper surtout 20 ans de perdu. Je me suis dit, fallait écrire des vies qui tiennent en 3 minutes, quoi.
Vous avez fait de la musique, vous, Mathilde Carton?
De la flûte de la 6e à la 3e.
La flûte à bec,
bien sûr.
Ça compte pas, hein, ça.
Non, bon, bah voilà.
Elle condore pas ça. Elle condore pas ça.
Alors, c'était vraiment pas super. Enfin, mon niveau était tout à fait médiocre.
Vous n'étiez pas destiné à la musique. Les parents voulaient que vous repreniez la chocolaterie du grand-père. Il y a eu des études avortées, donc, de sciences politiques. Être artiste, il a fallu se construire contre la famille, par exemple, pour vous, Martin?
Oui, alors c'est pas du tout un parcours du combattant, hein. Je vais relativiser ça tout de suite. Non, il y a eu. C'est vrai que le mot déconstruction, je l'emploie beaucoup parce que c'était vraiment ça, parce que j'ai pas un tempérament à détruire les choses comme ça. J'essaie plutôt d'interroger, de voir de l'intérieur qu'est-ce qui peut être gardé et qu'est-ce qui doit être justement réhabilité et redessiné. Mais oui, c'est vrai que si on va pas un petit peu, on se rapproche pas de la prise de pouvoir sur sa vie, on peut facilement passer à côté de cette même vie, quoi. Et ça, je pense qu'on vit pas assez longtemps pour se payer ce luxe-là, quoi. Donc moi, je voulais vraiment prendre ma vie vraiment. Je voulais la vivre pleinement, même qu'elle me dépasse, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a entendu le titre tout à l'heure, c'est que vous ne chantez pas, enfin, si, aussi, ouais. Vous parlez, chantez. Ça raconte quoi de vous, de la façon dont vous voulez dire les textes, en fait? Le fait de les parler, chanter.
Je crois que, ouais, le spoken, il y a ce truc qui est très proche, c'est très proche du langage du quotidien. C'est ça qui me plaît, c'est que je pense que, encore une fois, pour rattraper ces années, pour rattraper toutes ces émotions que j'avais pas su exploiter au bon moment, toutes ces choses que j'ai pas réussi à dire aux bonnes personnes quand c'était le moment, sans doute aussi, c'est pas qu'une question de synchro, c'est aussi une question de courage, quoi. Je pense que j'ai été longtemps mis loin de mon courage, je me suis facilement mis loin de mon courage, et du coup, ce côté spoken, moi, ça me permet aussi de restituer les choses telles qu'elles auraient dû être dites au moment où ça aurait dû être dit. Donc de pas essayer à l'enjoliver, de pas essayer à mettre du baume dessus ou à essayer d'esthétiser tout ça. Je voulais que ça sorte comme ça, entendre le son de ma voix, prononcer ces mots si j'avais eu le courage de le lire aux bonnes personnes au bon moment.
Eh bien, on va écouter ce que ça donne dans ce titre « Cœur ».
Mon cœur est un enfant gâté. Bref, t'as compris, un enfant raté. Mon cœur est cette course poursuite qui finira dans un platane. Mon cœur est cette fille qui se jette sur des rails. Mon cœur est une sortie de boîte. Merde, j'ai trop peur au fond que mon cœur soit un truc de droite. Mon cœur est un bras d'honneur. Il s'est même permis une fois de faire du mal à ma sœur. Écoute ton cœur, tout le monde disait. Écoute ton cœur, tout le monde disait. Mais moi, mon cœur m'écoute plus. Après tout ce qu'on a vécu.
Alors vraiment, pour ce EP5 titre, on peut dire que c'est un coup de maître parce qu'il y a 5 singles. On vient d'écouter le 2e single. Je voulais qu'on écoute ce titre parce qu'il est le résultat, j'ai lu, d'un processus pas commun. C'est une chanson qui serait née lors des rencontres d'Astaforte, c'est ça, organisées par Francis Cabrel. Vous connaissez le principe, 10 jours pour écrire 10 chansons en collaboration avec plein de gens.
Plein de gens, plein d'inconnus surtout, ça qui est bien. Et on vient vraiment sans nos ordinateurs, sans rien. On a interdiction d'aller puiser dans les choses qu'on a déjà écrites ou des choses en cours. Et ça vient nous confronter à un truc peut-être qui s'estompe un peu, c'est le danger. C'est simplement ce danger et d'essayer de voir s'il reste en nous une espèce de forme de gymnastique où on est capable d'écrire à d'après rien quelque chose qui nous sort des tripes. Et cette chanson était vraiment pas prévue, quoi.
Mais ça se passe comment en fait? Vous arrivez, qu'est-ce qui se passe?
On se lève le matin, il y a des petits déjeuners, il y a plein de choses.
D'accord, voilà. Ok, des vitamines, et ensuite?
Et ensuite, on nous désigne quelqu'un avec qui travailler, quelqu'un avec qui on n'a pas pensé travailler justement. Donc il y a des compositeurs, il y a des arrangeurs, il y a des auteurs, voilà. Et l'idée c'est de fabriquer des espèces de combinaisons complètement saugrenues ou complètement qui ne soient pas anticipées, quoi. Et donc on en vient justement à sortir de notre zone de confort et de nos automatismes, et ça c'est super pour nous qui écrivons, et pour pas justement rouiller la mécanique, quoi.
Ça a libéré quelque chose dans votre écriture?
Ouais, complètement. Moi, ça a libéré. Bah, surtout, ça a libéré. Ça vient encore réenclencher un bouton qui moi est bien grippé. C'est la confiance, quoi, et qui est grippé chez beaucoup de gens aussi. C'est comme on peut reprendre la confiance en se disant, tiens, hier cette chanson n'existait pas et ce soir cette chanson existe. Et puis c'est en fait c'est simplement d'écrire en étant dos au mur. C'est qu'on a un rendez-vous en fin de journée, on doit chanter une chanson devant tout le monde.
Alors bien sûr, quand j'ai écouté ce titre Cœur, ça fait un lien avec un projet que vous avez mené par ailleurs, Art Cœur. En quelques mots, vous pouvez resituer ce projet?
Ouais. Eh ben, c'était sorti du confinement, j'avais très très envie de voir du monde, comme tout le monde. Donc là, jusque-là, il n'y a aucun scoop, désolé. Mais du coup, et je trouvais surtout que le confinement avait fait quelques ravages, je pense, par rapport à l'utilisation de nos téléphones et à l'utilisation de ces téléphones qu'on braquait sur nous-mêmes, avec tous ces lives où on se filmait nous-mêmes et tout et tout. Donc moi, j'avais envie de braquer mon téléphone sur d'autres personnes. Donc je suis allé voir les projets et les personnes qui me touchent autant pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles font. Et donc je suis allé à la rencontre de Terrier, de Thérèse, de Mademoiselle K, de Horos. Et on fait des portraits intimes, en fait.
Voilà ce que ça donne.
C'est étrange de parler de Terrier, car j'ai l'impression de le connaître depuis 100 ans, en fait. Alors qu'on s'est juste rencontrés cet été à La Rochelle. Truc imprévu. J'aime bien son rapport aux choses. Les trucs bons, les trucs tristes. J'aime la façon dont il les prend dans le bide. Il porte une rage heureuse que peu de personnes assument comme lui. Il est libre. Touchant. Et a réussi à créer une force assez authentique, je trouve. Comme quand la vulnérabilité devient ta puissance.
Super bien écrit pour un portrait.
Merci beaucoup.
Je ferai appel à vous l'année prochaine.
Avec grand plaisir.
Pour réaliser les miens, alors que je n'en fais absolument jamais. Et ensuite, on entend Terrier qui va parler, et lui, il a tiré, parce qu'en fait, le principe, c'est que chaque personne que vous allez rencontrer, donc des chanteurs, des musiciens, vont tirer un papier sur lequel il y a un sujet, et lui, c'est le sujet parents. Et ce sont des sujets qui chaque fois vous intéressent.
Oui.
Et pour Mademoiselle K, c'est le mot sexe que vous lui aviez confié. Vous, de quoi vous auriez parlé?
Eh ben, moi, justement, j'ai mis tous les sujets que mon
EP... Ça fait rire, ma pile de carton. Oui,
j'ai envie d'en savoir plus.
Ben voilà, mais tout le monde.
Ben, c'était que des sujets, moi, que j'abordais dans l'EP, justement.
Et des fêtes de l'amour, ça, c'est pour...
Oui, c'est ça, défaire l'amour. Il y avait, le désir, le couple, le mariage,
le sexe,
les parents, le sexe, tout ça. Bah, c'était hyper intéressant. Enfin, moi, pour moi, c'était bouleversant parce qu'on sort d'un moment où, on a passé 3 mois chez nous, il y a aucun ego entre musiciens, on vient avec toute notre vulnérabilité, et puis moi je trouve que c'est vraiment le trésor qu'on a entre nous, quoi. C'est partager nos forces, c'est quelque chose, mais je trouve partager nos faiblesses, ça nous unit beaucoup plus. Donc c'est ça que je venais chercher, et j'ai eu la chance d'avoir vraiment des personnes qui se sont prêtées au jeu, et c'était vraiment bouleversant à faire, et je me suis à aucun moment soucié de à quoi ça ressemblera à la fin, et eux non plus, et c'était hyper touchant comme geste.
Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous auriez aimé qu'on vous interviewe?
Ah oui, vous revenez à ça, c'est vrai que j'ai essayé un petit peu de tourner là.
Complètement, vous savez.
Je sais pas, bah, je pense que j'avais des petits points de névrose un peu sur tous les sujets, donc j'aurais pu parler un petit peu longtemps. Mais je crois que ouais, j'aime bien parler du couple. Ça, c'est un truc qui me fascine. C'est quelque chose que je trouve qui est tellement ancestral et qui a jamais été trop interrogé et qui, je trouve, mérite d'avoir une nouvelle définition, d'arrêter de penser que on doit se mettre en couple et qu'il n'y ait pas de fin à ça. Que la beauté, justement, quelque chose, c'est de laisser la liberté à quelqu'un de partir et de le choisir par définition tous les jours, quoi.
Je vous ai passionné de super-héros américains, Batman, les X-Men, Spider-Man. Vous vous identifiez parce que chaque fois, ce sont des héros qui ont des super-pouvoirs, mais des super-pouvoirs qui cachent des énormes blessures qui sont généralement, bah, par exemple, Spider-Man, c'est parce qu'il a été atrocement mutilé par une araignée. C'est vous, en fait. Le mec qui fait de la psychanalyse à 3 balles. Qui fait son hard cœur.
Bah ouais, moi je crois que je suis fasciné par ça. Au début, je me demandais pourquoi. Parce que quand on est petit, c'est normal d'adorer ça. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que ça me touche encore autant. Que j'arrive à être vraiment scotché devant le Batman de Tim Burton de 89. Et qui ça me tue, en fait, ce héros, pour ne parler que de lui, qui est un héros dont... qui en fait le monstre n'est pas tellement quand il met son costume, c'est plus son costume social qui est le monstre, quoi, parce que il est pas du tout habilité à vivre en société, et puis en fait sa douleur, sa souffrance l'a complètement dépassé, l'a complètement redéfini. Et puis ouais, je sais pas, moi je suis très touché, j'ai l'impression que c'est un peu notre mythologie à nous, cette génération là, quoi, des années 90-2000, quoi.
C'était la session Hardcore. La vôtre. Martin Luminet, vous restez avec nous. On va retrouver Mathilde Carton dans quelques instants pour son essai sur les Riot Girl. Ce sera tout de suite après le rendez-vous avec Marion Guilbault. Mais avant cela, les Sparks sont de retour au générique de la comédie musicale Annette de Léos Carax, en ouverture du Festival de Cannes le 6 juillet prochain, avec notamment Angèle. Les Sparks, qui font aussi l'objet du documentaire d'Edgar Wright, The Sparks Brothers, tout de suite sur France Inter.
So, may we start?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
Il est bien le son.
Club.
La musique est dingue.
Sur France Inter.
Marion, vous avez rendez-vous avec un chien fou.
Mm-hmm. Il était un de nos invités pour les 100 ans de la radio.
Exactement.
La semaine dernière, mais comme on ne peut pas se passer de lui et de sa voix de super-héros, c'est mon super-héros à moi, le revoilà dans Côté Club. Bonsoir Arthur H.
Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà de retour, bonsoir, donc, parmi nous, parce que vous publiez demain une nouvelle chanson. L'Avalanche,
ouais.
Une chanson qui a une histoire particulière parce qu'elle est née, en quelque sorte, en 2019, sur la scène du théâtre de la Colline à Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ?
c'est, j'ai interprété un personnage d'une pièce de théâtre qui s'appelait Alice, qui était un chanteur désespéré. Et ce chanteur, il avait eu son heure de gloire avec ses grandes chansons, ses tubes à son époque. Et du coup, j'ai tenté un petit peu, comme un jeu, de composer ce qui aurait pu être ses anciens tubes.
Donc c'est pas une chanson que vous avez interprétée sur scène, hein, parce que c'était la pièce s'appelait « Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge ». Vous l'aviez coécrite, hein, avec le metteur en scène Wajdi Mouahad. C'était votre première fois au théâtre, Arthur H.
Oui, tout à fait. Oui, c'était la première fois. Ouais. J'ai eu le dos bloqué pendant 3 mois.
J'imagine.
Ça m'a fait très très peur. Ouais. Mais c'est bon. C'est vrai que après. On est content d'avoir eu peur. Par contre, quand on a peur, c'est pas très agréable. Mais c'était quand même extrêmement excitant de faire cette aventure.
Comment vous étiez arrivé dans l'univers de Wajdi Mouahad ? C'était par un livre, par une pièce ?
On discute par une amie commune qui nous a fait nous rencontrer. J'ai vu quelques-unes de ses pièces. Ça m'a beaucoup touché. Puis après, on a tout de suite commencé à parler d'un spectacle, d'essayer de mettre au point une rencontre un peu potentiellement original entre la musique et le théâtre. Alors, on n'est pas vraiment arrivé à faire ça, mais notre idée de base, c'était de faire un enterrement, c'est-à-dire que je sois dans un cercueil sur la scène, et que finalement, ce soit mon enterrement, et puis que je sorte du cercueil, et puis qu'on raconte la vie d'un personnage, quoi. Et alors, tout ça s'est transformé au fur et à mesure dans une vraie histoire, en fait, où c'était plus du tout moi. Mais j'ai quand même réussi à passer au moins 5 minutes dans la pièce, dans le cercueil. L'essentiel a été sauvegardé.
Dans cette pièce que vous avez co-écrite à Arthur H., vous y jouiez donc le rôle d'Alice.
Enfin, je ne l'ai pas vraiment co-écrite parce qu'en fait, on a eu l'idée ensemble, ouais. On a trouvé l'idée ensemble, on a fait 2 voyages ensemble pour développer l'idée, mais après, une pièce de théâtre, c'est vraiment une machinerie tellement complexe de faire vivre tous les personnages que moi je ne maîtrise évidemment absolument pas et que Wajdi maîtrise à la perfection, du coup c'est lui qui a tout fait.
C'était une idée de vous, ce personnage d'Alice ?
C'est une idée, il est venu au fur et à mesure, je pense que Wajdi et moi même, on avait envie de parler de quelque chose de l'ordre vraiment de la confusion en fait, de qu'on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment penser, ça parle d'un mec qui est un peu oublié, qui est devenu quand même assez amer. Et il est en colère, mais il n'arrive pas à prendre prise sur le réel. Il n'arrive vraiment pas. Du coup, il rencontre son manager. Et puis là, il est vraiment déjà au fond du trou. Et puis, ils ont une idée éblouissante. Une idée vraiment fantastique. C'est-à-dire qu'il décide de mimer sa mort, de faire une fausse mort. Et là, ça va être la gloire, quoi. C'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, tout le monde va reconnaître que c'est un génie méconnu, parce qu'il est mort. Enfin, il est mort, donc enfin, on le regarde, quoi. Mais évidemment, la pièce est très drôle aussi, hein, elle est dramatique et très drôle. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, mais voilà. En tout cas, j'ai passé au moins 5 minutes dans le cercueil.
Oui, parce qu'il a tellement de succès en étant mort. Moi, je vous avais vu, il a tellement de succès en étant mort qu'on n'a pas du tout envie de le voir revenir vivant, ce personnage.
Oui, mais malheureusement, pour lui, il revient. C'est la vraie mort sociale, quoi. Il vit la vraie mort sociale.
Arthur H., en 1990, ouais. Vous avez publié votre premier album. Ça va faire 31 ans de chansons. Allez, on va dire 30 pour faire anniversaire. De musique, de chansons, de musique. Quand est-ce qu'on fait de ça dans Côté Club ? Ça vous dirait pas ?
Ouais. C'est abstrait pour moi. Déjà, on fête la nouvelle chanson, donc on fête la nouveauté, le futur, la nouvelle naissance d'une nouvelle chanson. Donc c'est encore mieux que fêter mes 30 pauvres années de carrière.
Non, n'importe quoi, pauvre année, bien sûr. C'est cela, 3 victoires de
galère,
la musique.
De
mais
galère,
oui,
surtout.
Bien sûr. Ouais. Alors, on va l'écouter dans quelques secondes, cette chanson, L'Avalanche. Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
L'Avalanche, elle raconte un sentiment comme ça, très particulier, d'être envahi par quelque chose qui vous dépasse, qui vous emporte, que vous contrôlez pas vraiment, en fait. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas forcément, je parle pas forcément de sexe, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi, je sais pas.
Merci beaucoup, Arthur H. Et à très bientôt dans Côté Club. Moi, je vous lâche pas pour cette histoire de 30 ans. On va faire quelque chose. Et on se reparlera pour la sortie de cet album qui sortira le 3 septembre. Tout de suite, on se laisse glisser dans votre avalanche.
La poudreuse t'éclabousse. Tu ne sais pas qu'elle arrive, l'avalanche. Même si le soleil te brûle et que l'air froid te glace, l'espace, insolente insouciance. Orbiste. Et soudain, tu pressens l'avalanche. Voilà qu'elle se rapproche. Accélère, rapide et légère. Orbiste, elle t'envahit, te submerge.
Superbe avalanche portée par la voix d'Arthur H pour la première fois sur France Inter, disponible dès demain sur toutes les plateformes. En attendant l'album Mort prématuré d'un chanteur populaire dans la force de l'âge pour le 3 septembre et foncez voir le clip signé par le dessinateur Christophe Blain.
Hey, check ça.
Côté club.
Côté club.
Wesh.
Sur France Inter.
C'est quoi ce wesh pour moi? J'ai pas droit au truc sexy. Il y a un jingle sexy. Il est toujours pour Marion. Il faut être gender fluide un petit peu dans la vie. Je parle au réalisateur. Martin Luminet et Mathilde Carton sont les membres de Côté Club ce soir. Et oui, elle a la carte. Mathilde Carton avec son livre consacré aux Riot Girls, un mouvement révolutionnaire de filles dans les années 90. Des filles qui ne connaissent absolument pas la musique, mais comme toute la scène punk, ne sait pas jouer, donc on s'en fout. Des filles qui vont se lever contre les préjugés, l'exclusion dont elles sont victimes dans le milieu de la musique, quand elles sont un peu blackboulées dans les concerts par des espèces de gros misogynes. Elles vont créer sur un campus américain leur propre scène pour raconter qui elles sont, ce qu'elles vivent,
exclusion, viol, avortement, le plaisir aussi. Ces filles, certaines d'entre elles, en fait, Mathilde Carton, vous les avez vues sur scène le 10 juin 2019. Elle se dit, putain, il va directement à la fin du bouquin. C'est le nom... À la dernière page, j'ai dit. C'est le nom du groupe Bikini Kill. On écoute tout de suite un extrait de leur titre emblématique, Rebel Girl. Bien, ce ne sont pas des grandes techniciennes, c'est pas Céline Dion qui chante, désolé Martin Luminet.
Tant mieux.
Pour vos parents. Mais il y a une véritable énergie. Un mot sur ce groupe qui est à l'origine du mouvement dont on va parler et que vous avez vu se produire il y a 2 ans.
En effet, alors Bikini Kill, c'est le groupe par qui tout va absolument démarrer. Donc la figure de proue s'appelle Kathleen Anna. Kathleen Anna est à la fois... une chanteuse, mais elle se définit aussi comme une assistante sociale. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est très engagée. Elle est militante féministe. En fait, elle va même être une ado punk un petit peu turbulente. Et en fait, malheureusement, il va lui arriver un soir, ce qui arrive un peu trop souvent, elle va être violée. Et plutôt que d'extérioriser ça, elle va au contraire se mettre entièrement au service d'associations pour les femmes battues. Et une fois étudiante, une fois qu'elle arrive sur le campus d'Evergreen, elle va en fait quelque part rejoindre ses deux centres d'intérêt, donc son militantisme féministe, mais aussi son amour du punk. En croisant les deux, ça donne une croisade merveilleuse, ça donne une révolution féministe, et elle va essayer de mettre en chanson l'importance en fait, et ce que ça veut dire d'être une femme au début des années 90 aux États-Unis.
Est-ce qu'elles se sont produites des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des mouvements, des moments de recul de la scène? Est-ce qu'elles ont fait autre chose? Est-ce que vous les avez rencontrées?
Moi, j'ai parlé avec Kathleen Anna à plusieurs reprises, donc ça, c'était assez dingue de rencontrer la reine-mère d'un courant aussi important. En fait, c'est un courant donc, qui va exister de 90 à 94, qui va gratter jusqu'en 97, mais en réalité, il va plutôt exploser de l'intérieur, parce que comme chacun sait, les mouvements radicaux qui décident de rester dans l'underground, qui à aucun moment ne veulent engager ni manager, ni promoteur, ni rien, et qui font tout par elles-mêmes, forcément, ça génère quelques tensions, n'est-ce pas? Et donc, elles vont... ensuite se partir sur d'autres projets, notamment donc Bikini Kill, Kathleen Anna. Elle va créer Le Tigre, elle va créer, en fait, c'est elle, avec la même énergie du punk, de la même façon que le punk n'exige pas de vous que vous soyez virtuose, que vous ayez fait du solfège, quelque part la musique électronique ne le suppose pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez découper, couper des sons et en faire un petit peu des collages, de la même manière qu'elle faisait des fanzines. Avant, donc dans ces fanzines, elle collait et des images et des textes, et avec la musique électronique elle va coller des sons et des samples, et ça va devenir Le Tigre. Et par la suite, elle aura plusieurs projets jusqu'à effectivement 2019, la reformation. Et cette fois, ce ne sont plus des vingtenaires enragés qui avaient absolument envie de se battre contre le réganisme, contre Bush et contre en fait toute une politique ultra-conservatrice qui effectivement voulait remettre en question l'avortement.
C'est ça.
Mais des femmes quinquagénaires qui sont dans la transmission. Et au concert de 2019, ce qui avait d'absolument génial, c'est qu'il y avait plusieurs générations de féministes. Il y avait des ados, il y avait des vingtenaires, des trentenaires, des quadras, des quinquas, et c'était génial.
Ça se passait à Londres ?
Ça se passait à Londres. Et
ça ressemblait à quoi leur concert ?
Eh bien, c'est un concert punk, quoi.
Non, mais sur scène, elles étaient comment ? Enfin, je sais pas, elles étaient
c'était,
comment
en tout cas,
l'énergie
De tous les récits que j'ai pu lire de ce que ça avait été, honnêtement, j'ai retrouvé la même chose. C'est-à-dire la même énergie. Kathleen, elle est très drôle, elle fait beaucoup, beaucoup de blagues. Donc, si vous avez un anglais super, bah, vous allez vous marrer avec elle. Il y a une énergie assez dingue. Et puis... surtout, ce qui est fabuleux, c'est que pour bien montrer et vraiment souligner le fait que le punk, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être virtuose, en fait, elle change d'instrument. Donc on les voit qui tournent, c'est-à-dire qu'un coup c'est la batterie, un coup c'est la basse, et c'est très amusant de voir qu'en fait on peut toujours faire du punk à tâtons, même si on est quinca, même si en fait au final on est plutôt rodé à cet exercice-là, on montre que l'amateurisme a des vertus.
Autre voix, autre extrait. Ça, c'est le groupe Bratmobile, enlevé par Alison Wolfe, Aaron Smith et Molly Newman, un titre de 92. Quand vous entreprenez ces recherches, c'est dans les années 2010 à peu près.
Je suis étudiante. En effet, c'est un mémoire de recherche que donc ouais, on doit être. C'est ça exactement, 2009, je dirais. Ouais.
Quels étaient vos présupposés en fait quand vous avez mené ces recherches sur ces mouvements?
J'imaginais beaucoup plus de violence encore que ce qu'elles ont subi. Il s'avère que leur quotidien n'était pas simple du tout. Mais comment dire, en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait de la joie malgré tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le punk aussi est marrant. C'est-à-dire que dans leur idée de transformer un courant musical en mouvement social, ça s'est aussi fait dans la joie d'être ensemble et dans un côté solidarité. Et ça, pour le coup, c'était assez fabuleux à découvrir.
Qu'est-ce qu'a pu représenter donc ce groupe Bratmobile?
Bratmobile, pour le coup, c'est vraiment le côté. En fait, ce qu'elles mettent en avant, c'est une imagerie de petite fille. Il y a l'idée qu'en fait, faut imaginer que les Riot Girls arrivent au moment de la troisième vague féministe, la deuxième vague féministe dans les années 70, où on parle beaucoup de la femme. C'est vraiment de woman, etc. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour girl. Mais qui sont ces filles? Qu'est-ce que c'est en fait?
Quelque chose qui revient aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, on en a parlé.
On en a parlé avec d'autres aussi, oui. C'est-à-dire une impossibilité à se définir comme femme, mais plutôt comme fille, oui.
Oui, d'autant plus que d'un point de vue strictement sociologique, en fait, dans les années 90, les femmes sont rentrées sur le marché de l'emploi, l'âge du mariage recule, donc en fait, il existe désormais comme un moment qui n'existait pas au préalable. On a le droit d'avoir entre 20 et 25 ans, d'explorer sa sexualité, de savoir un peu qui on est, de tester des choses, chose qui n'existait pas avant. Et elles, en fait, donc à ce moment-là, donc elles sont étudiantes, elles ont une vingtaine d'années, et elles se disent que là où il faudrait puiser une énergie et une solidarité, c'est dans l'enfance, car en fait, avant la puberté, vous n'êtes pas dans la compétition sexuelle. Et votre copine, en fait, ça peut être votre meilleure amie et vous n'avez pas besoin de rentrer en compétition, quel qu'elle soit. Le regard de l'homme n'existe pas encore, ou en tout cas, est bien moins fort que ce qu'il va être par la suite.
Alors, la compétition existe pour autant avec les Riot Girls. Par exemple, elles sont vilipendées par Courtney Love.
Bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Parce que Courtney Love, elle est extrêmement jalouse. Et il faut savoir que Kurt Cobain, il vient lui aussi d'Olympia. Et il a connu Toby Vail, qui est l'un des autres membres de Bikini Kill, et même qui sont tombés super amoureux. Au point où Toby Vail lui a un petit peu tout appris sur le féminisme. En tout cas, il y a vraiment eu un moment de fusion totale entre les deux, et elle lui a transmis ces valeurs-là. Et donc, quand Courtney rencontre Kurt, qu'il tombe amoureux et qui lui dit « Viens, on emménage à Seattle », ça lui fait moyennement plaisir de retomber dans l'entourage de l'ex. Et au-delà de ça, elle a une autre jalousie, Courtney Love, c'est que les Riot Girls et Bikini Kill en particulier vont être adoubées par Kim Gordon, donc l'une des figures majeures quand même de la scène post-punk. Et Courtney Love, à l'inverse, n'arrivera jamais à rentrer dans les bonnes grâces de cette dame-là, y compris d'ailleurs de Joan Jett. Donc en fait, elle a besoin d'être validée, Courtney, elle va être validée et par son amoureux et par les grandes dames de la musique. Et malheureusement, ça passe pas très bien. Donc,
D'où la rivalité avec Courtney Love. Alors c'est un féminisme à la base qui est punk et rock des années 90 qui va être non pas dévoyé, mais complètement récupéré par une autre scène mainstream, le girl power des Spice Girls.
Et oui, et ça c'est quand même la beauté du geste, c'est-à-dire que de la même manière que Madonna était allée chercher dans les contre-cultures le voguing, eh bien les grandes majors des années 90 vont essayer pareil de chercher de nouvelles idées, et là cette espèce de colère, de rage, de revendication, eh bien c'est les Riot qui l'offrent, et dans leur message de revendication, il y a évidemment cette idée de solidarité féminine, qui va passer à la moulinette, bien sûr, des majors, devenir le girl power, qui en fait est un terme qui a été inventé par Toby et Kathleen sur leur moquette, au moment où elles imaginaient un fanzine, où en fait elles avaient listé sur un mur tous les adjectifs positifs et négatifs qu'on a l'habitude d'accoler au féminin, donc à fille. Et là, en jouant un petit peu, elles se sont dit, tiens, c'est vrai que puissante et fille, bizarrement, ça coince. Pourquoi? Et là, elles sont complètement emparées, et girl power est devenu le titre du deuxième fanzine de Bikini Kill. Et après, nous, on l'a chanté en cours de récré, beaucoup plus tard.
Ouais, pas moi.
Bon, peut-être avec d'autres gens.
Moi, je chantais plutôt Céline Dion. J'étais comme les parents de Martin Luminé. Encore une autre voix et un autre style. Kiné, ça c'est le groupe avec un titre de 1996, et ce qui est intéressant, c'est que le groupe va se reformer en 2016.
Oui. C'est-à-dire donc quelques 30, je sais pas combien de temps ça fait, 20 ans
après.
20 ans plus
elles
tard.
Elles ont existé jusqu'en 2006. En fait, elles ont rompu parce que, enfin, le groupe a explosé. Parce qu'elles ont eu, 30 ans en fait. Elles ont eu des enfants et elles se sont mariées. Il s'est passé des choses comme payer son loyer, commencer à avoir une hypothèque. Et bon, bref, à ce moment-là, le groupe de rock'n'roll a juste rompu. Effectivement, elles se sont reformées. Elles ont sorti un album produit par Saint-Vincent il y a de ça 4 ans. Et là, il y a un nouvel album surtout qui sort cette semaine.
Et ce qui est intéressant, c'est que les combats qu'elles mènent vont trouver un écho dans la scène rap actuelle, puisque c'est Lizzo qui va ouvrir leur concert.
Exactement, parce que ce qui est intéressant, c'est que le girl power, il arrive jusqu'aux Spice Girls, mais aussi, il arrive de manière beaucoup plus insidieuse, en fait, dans la pop culture sens large. C'est-à-dire que Lizzo, qui, elle, est une artiste qui à la fois rappe, chante et fait de la flûte, comme quoi c'était quand même un vrai instrument, c'est important de le préciser. Et en fait, elle, le premier groupe qu'elle va former, ça va être un collectif qui va s'appeler Girl Party, et c'est le même girl que Girl des Riot Girls. Et le manager, il dit, mais dis donc, c'est pour un hommage à ce courant-là, elle dit, mais non, pas du tout, de quoi tu parles. Et là, il lui montre ce que c'est, parce que la chance qu'on a, c'est que passé 2015, en fait, on a commencé à avoir des documentaires sur les riots, et en fait, il y a eu des images, ça commence un petit peu à être documenté. Et Lizzo voit ça, elle tombe complètement dedans, et elle dit, mais mon Dieu, c'est fou, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, continuer ce combat-là, continuer ce manifeste politique-là, trouver de la place pour les femmes, non plus en tant qu'objet, mais en tant que sujet, en tant que productrice, créatrice. Et c'est ce qu'elle fait. Et Sleater-Kinney va emmener Lizzo en première partie, et c'est la première fois, en fait, qu'on va la voir sur scène.
Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'était un mouvement de femmes blanches.
Oui, effectivement, puisque ça naît sur un campus américain. Les campus américains particulièrement sont pas peu chers. Donc ça suppose un certain capital, en effet, économique, mais aussi social et culturel. Et par la force des choses, c'est des filles qui, en plus, vont avoir beaucoup lu, beaucoup de théories féministes, et qui vont essayer donc de le passer à la moulinette du punk, pour que ce soit bien diffusé. Mais disons qu'elle, ça reste quand même des gamines de 20 ans et parfois le regard reste auto-centré et faire de la place à des gens qui n'ont pas les mêmes expériences que vous, qui ne viennent pas des mêmes milieux sociaux, c'est pas forcément instinctif. Donc en effet, elles vont rester un peu fermées entre elles. Il y a quelques riots racisés en fait qui vont beaucoup plus se retrouver dans les fanzines, c'est-à-dire dans leur moment à elles personnel, plutôt que sur scène ou effectivement dans les groupes de parole. Ça va être un peu compliqué. Et là, mais elles ont tenté de faire amende honorable. Parce que, par exemple, dans le cadre de la reformation en 2019, les concerts de Bikini Kill à Los Angeles, elles souhaitaient mettre en avant, avant toute chose, les punks latinas. On était à Los Angeles, donc la communauté latina est super importante. Et il y a eu beaucoup de groupes, en fait, dans cette scène-là, dans cette zone-là. Et c'est intéressant de voir le cheminement aussi qui s'accompagne. De la même manière que, par exemple, leur grand mantra, c'était de dire, en salle de concert, les filles oui, à l'avant, les garçons derrière. Alors, évidemment, les garçons, au début, c'était pas tout à fait content, et parfois même ça se battait un peu.
C'est vraiment redistribuer une autre géographie des concerts.
Complètement, il faut redessiner. En fait, chaque espace est politique, y compris la fosse. Et le meilleur moyen de vraiment changer les choses, c'est de le demander. C'est vraiment littéralement de monter sur scène et de faire bouger.
Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, merci Mathilde Carton. Riot Girl, Révolution Girl Still Now, c'est aux éditions Le Mot et le Reste, comme dirait Clara Luciani. Martin Luminé, merci. Monstre, c'est le premier EP avec quelques dates. Tarare le 11 juin, Paris la Boule Noire le 16, Festival Arsenic le 3 juillet, Lyon le 8, Francophonie de la Rochelle le 10, le 29 août, Festival Hop Sound Fest, et le 19 septembre, vous serez à Sébaza au Sémaphore. Marion ?
L'Avalanche, c'est le nouveau titre d'Arthur H. Pour la première fois donc sur France Inter ce soir, disponible sur toutes les plateformes dès demain. L'album, ce sera le 3 septembre.
Demain, deux nouveaux clubbeurs, Hussard et Angélique Kidjo. Pour vous, Marion.
Je passerai un coup de fil à Hervé Bordier, le directeur du festival Rio Loco, qui tire sa révérence avec une édition métissée et féminine aussi.
Voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, à demain.
On commence du côté.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.